Bonjour à toutes et bonjour à tous. Salutations chaleureuses en tout cas à tous ceux que je connais et également à ceux que je ne connais pas encore. Quelques têtes nouvelles en tout cas pour moi ce matin. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce matin après ce beau temps de louange. Alors j'avais pris l'habitude de vous voir de dos depuis le mois de septembre. Mais ça me fait plaisir de vous voir maintenant un petit peu de face à face, en face à face. Voilà, merci à Paul et à l'équipe de direction de m'avoir permis, en leur absence, de partager avec vous la parole de Dieu. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier de vive voix. Je l'avais fait par un mail à toute l'Église, mais je voulais vous remercier de vive voix pour tous les gentils mots que vous m'avez adressés, pour tous vos gestes d'affection et puis votre élan de générosité. J'ai été, j'en suis encore très touché. Alors vraiment, merci de qui vous êtes, voilà, vis-à-vis de moi. Alors je n'ai pas eu de consigne particulière pour le choix du thème de ce matin. Alors j'ai prié, j'ai lu et j'ai médité. Et je crois finalement que le Seigneur m'a dirigé, et je pense que c'est lui qui l'a fait, voilà, à vous proposer à lire un texte bien connu de l'Évangile. À tel point que quand je l'ai lu, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire encore? Quand c'est bien connu, on a du mal à chercher et à trouver des choses nouvelles, mais rassurez-vous, quand quelqu'un dit des choses nouvelles, c'est peut-être un petit peu suspect, n'est-ce pas? Donc, que le Seigneur nous amène à une fraîcheur de la parole de Dieu. Le texte que je vous propose de lire, ça se passe dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, et à partir du verset 35. Mais avant de le lire, je voudrais avoir quelques mots d'introduction. Comment le Seigneur nous parle au travers de sa parole? Et quelqu'un a parlé ce matin, a prié du mystère de la parole qui agit en nous. Et j'ai trouvé cette prière très belle. La première fois que j'ai eu un évangile entre les mains, c'était à l'âge de 10 ans, 10, 12 ans. Ce fut un peu par hasard. Je devais avoir cet âge-là. Et je m'ennuyais un après-midi. J'ai regardé dans notre bibliothèque familiale. Enfin, une bibliothèque, c'est un grand mot parce que nous devions avoir en tout et pour tout peut-être une dizaine de livres à la maison. La grande bibliothèque familiale, famille Garcia, maintenant il y en a beaucoup plus. Mais ce qu'il y avait chez nous, c'était plutôt ce qu'on appelait les Mickey à l'époque, hein, les BD, hein, les Mickey, voilà. Mais cet après-midi, là, par hasard, je suis tombé sur cet évangile. Et je me rappelle l'avoir lu du début jusqu'à la fin, même les chiffres. Parce que je ne savais pas comment lire un évangile. Il y avait des chiffres au milieu, je lisais les chiffres. Mais je me rappelle mes sentiments à cette lecture. Émerveillement, étonnement, émotion de tristesse au récit de la passion. Mais j'étais encore aveuglé au mystère de la résurrection, à la lecture de la résurrection. L'identité de Jésus me restait voilée. Et les récits que je lisais, il me semblait que c'était des choses anciennes, presque de la fiction. Voilà, une fois lu, j'ai refermé l'évangile. J'ai reposé l'évangile dans ma grande bibliothèque familiale. Mais je pense qu'en regardant en arrière, c'est comme si le Seigneur avait ouvert une brèche en moi, au travers de la lecture de l'évangile. Parce que des souvenirs, des bribes de paroles que Jésus avait prononcées se sont inscrites dans ma mémoire. Et puis une soif a commencé à naître en moi. Mon cœur était fermé, mais un jour, la semence qui avait été semée à la lecture de l'Évangile est venue remplir mon cœur. Mystère de la parole. Alors, la parole de Dieu s'imprime dans la mémoire. C'est pour ça que nous sommes appelés à la lire, à la méditer, à la relire. Elle s'imprime dans notre mémoire. Et lorsque la parole de Dieu est reçue vue et lorsqu'elle est imprimée dans notre mémoire, lorsque le cœur est renouvelé par le Saint-Esprit, lorsque nous passons par cette nouvelle naissance, la parole de Dieu, elle vient construire, elle vient fortifier notre foi. Elle nous oriente vers Jésus. Nous croyons en Jésus, nous ne croyons pas en la foi. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous n'avons pas foi en la foi. Nous avons foi dans le Seigneur Jésus. Et puis, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons l'Évangile, eh bien, elle construit en nous une vision du monde qui est connectée avec le réel. Ce n'est pas une utopie. C'est Dieu qui a créé le monde dans lequel nous vivons. Et lorsque nous lisons l'Évangile, elle nous connecte avec cette vision du monde créé par Dieu. Et puis, elle nous construit intérieurement. On n'a pas besoin d'aller voir un tel ou un tel. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle vient nous construire. Et on l'a chanté tout à l'heure. En lui, je sais qui je suis. Un enfant sans enfant. Choisi. Affranchi. On l'a chanté. Alors pourquoi vous dire tout cela ? Bien simplement pour vous rappeler que c'est ce mystère de la parole, comme il nous a été dit ce matin, qui vient en nous et qui sème en nous des paroles, des affaires de la vie. Voilà. Alors, Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Elle est semence de vie, utile pour nous faire grandir, pour nous construire intérieurement. Seigneur, nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin que tu fasses de nous des hommes et des femmes de Dieu mature. Seigneur, nous voulons la lire, nous voulons la méditer. Seigneur, imprime-la encore dans notre mémoire. Amen. Alors, lisons ce texte. Marc 4, à partir du verset 34, si vous voulez. Jésus ne leur parlait pas sans parabole. Alors, c'est peut-être un petit peu petit. Ça va, vous y voyez ? Alors écoutez si vous n'arrivez pas à voir. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba. Et il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez peu de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Mais qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Et dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Et on s'arrête là à la lecture. Merci Seigneur. Alors pour certains, le récit que l'on appelle la tempête apaisée demeure une histoire pour enfants. Un adulte ne pourrait pas y donner crédit. Mais vous l'avez compris, j'espère, que ce n'est pas une histoire pour enfants que je suis en train de vous raconter. C'était des hommes mûrs, des hommes matures. Cela s'est passé dans leur histoire, dans le monde réel, des pêcheurs du lac de Galilée. Pas une fiction. Et le Saint-Esprit a voulu que nous gardions cette histoire, cette narration, parce qu'elle nous parle encore à nous aujourd'hui. C'est une petite histoire, certes, mais elle fait partie de la grande histoire du salut, celle de Dieu qui est devenu homme partageant notre humanité. Et on va voir cette humanité se manifester dans cette histoire. Jésus venait de passer toute la journée à enseigner la foule. Il avait même eu un enseignement en privé avec ses disciples. Il avait eu en début de journée affaire à des détracteurs, des scribes et même à sa propre famille. Ce fut une longue journée de ministère qui avait commencé par des affrontements et qui s'est poursuivie au milieu d'une grande foule. Et c'est maintenant le soir. Jésus ordonne à ses disciples de monter sur la barque. Et l'évangile de Matthieu, qui nous raconte le même texte, la même narration, précise que c'est lui qui monte en premier dans la barque et que ses disciples le suivent. Alors, je crois que j'ai une diapo, Timéo. Voilà. Matthieu, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Un petit clin d'œil pour nous rappeler ce qu'est un disciple. Un disciple, ça suit le maître. Ils sont à l'école du maître. Ils le suivent. Et ici, qu'avons-nous dans cette histoire ? Eh bien, une leçon de foi pratique, un atelier pratique de la vie du disciple. Jésus les avait appelés, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? Ils étaient en train de pêcher, ou ils étaient en train de réparer leur filet, ou ils étaient encore en train, derrière leur bureau, en train de compter l'argent des impôts. Et Jésus les avait appelés. « Toi, suis-moi ! » Ils se sont levés, ils ont suivi Jésus. Pour suivre Jésus, il faut un petit peu de foi quand même, non ? Lorsque, surtout, quelqu'un vous appelle, viens, suis-moi. Ils avaient vu Jésus guérir des malades. Ils avaient vu Jésus chasser des démons. Et à la fin, quand même, à la fin de l'histoire, ils se posent la question, mais qui est-il ? La leçon de vie qu'ils vont traverser sur cette barque va les faire grandir dans la foi. Donc ils montent sur le bateau. Quel bateau ? Quelle barque ? Ben, certainement celui de Pierre ou d'André, son frère. Ils étaient pêcheurs. Ou peut-être ceux des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ils étaient tous les quatre des pêcheurs du lac de Galilée. Ce n'était pas une petite barque, hein. C'était pas simplement une deux places. Elle était assez grande pour accueillir une quinzaine de personnes. En 1986, on a retrouvé une barque dans le lac de Galilée, qui est exposée maintenant dans un kibboutz. C'est à peu près 8,50 m de long, 2,30 m de large, une voile au milieu, quatre rameurs, et puis une dizaine de places pour récupérer les filets. Jésus se met à l'arrière sur un coussin. Il ne peut pas aider à la manœuvre. Lui, il est charpentier, il n'est pas marin. Les disciples hissent la voile et font route vers l'autre côté, puisque le maître a dit qu'il fallait passer de l'autre côté. Alors le lac, même s'il est appelé mer, hein, c'est 21 km de longueur, c'est 13 km de large. Hein. Certainement un peu plus grand à l'époque de Jésus, mais voilà. Et puis finalement, Jésus s'endort. Il ne fait pas semblant, hein, il ne fait pas semblant de fermer les yeux pour voir ce que les disciples font. Il s'endort. Il s'endort parce qu'il est harassé de fatigue. Rien n'est plus humain que de s'endormir alors que l'on est fatigué. Et si quelqu'un s'endort pendant que je parle ce matin, c'est pas un problème. C'est que vous êtes fatigué et que vous me faites confiance. Quelqu'un, une dame appelle son mari qui était pasteur et dit oh, « T'as vu un tel, il s'est endormi pendant ta prédication. » Le mari lui a dit bah, « C'est parce qu'il me fait confiance. » Parce que si j'allais dire des bêtises, vous seriez tous aux aguets pour écouter, voir quelles bêtises j'allais dire. Ok. Donc Jésus leur avait proposé de passer sur l'autre bord, non pas pour fuir la foule, hein, puisque la foule avait déjà été renvoyée, mais bien pour aller de l'autre côté, au pays des Gadaréniens. La population de cette région était probablement composée d'un mélange de cultures et de croyances diverses, avec un fort pourcentage de non-juifs. La région elle-même était considérée comme une région impure, puisque ici, dans cet endroit-là, on élevait des porcs, des cochons. Mais Jésus veut y aller de manière intentionnelle, passant de l'autre côté, pas pour fuir, mais pour annoncer. C'est un clin d'œil à ce que Paul nous a dit la semaine dernière au sujet de la mission de Dieu, l'ouverture, l'élargissement vers ceux qui nous sont extérieurs à nous. Là-bas, Jésus avait un rendez-vous. C'est pour ça qu'il faut passer à l'autre bord. À peine arrivé, il y a un homme qui sort des sépulcres. On ne pouvait pas le garder enfermé, il était enchaîné, il vivait dans un cimetière. Et Jésus avait besoin de le rencontrer. Ou plutôt lui, il avait besoin que Jésus le rencontre. Les églises locales aussi ont d'autres bords à traverser pour élargir leur champ, pour aller à la rencontre de l'imprévu, cet imprévu que le Seigneur propose. Où est-ce que le Seigneur veut nous amener durant ces années, ces prochaines années ? Nous avons prié pour notre week-end de responsables à 7. Ils sont en train de prier pour nous aussi. Je crois que c'est important qu'on puisse soutenir nos responsables. Alors, ils n'ont pas toute la vision directe. Il y aura sûrement des temps où ils nous la partageront, où on partagera ensemble ce qu'ils auront reçu de la part du Seigneur. Mais on est tous dans la même barque ensemble. Alors, continuons, si vous voulez. La traversée se passait bien. Quand, soudainement, sans avertissement, ils sont frappés par une tempête terrible. Luc décrit une bourrasque, un tourbillon, un ouragan de vent. Le mot grec, c'est même séisme, tremblement de terre. Ils passent par une tempête. Beaucoup de gens ont l'idée que les tempêtes n'arrivent dans leur vie que parce qu'ils ont désobéi au Seigneur. Mais là, la tempête arrive parce qu'ils sont en train d'obéir au Seigneur. C'est une tempête au-delà de leur capacité, au-delà des compétences des marins dans la barque. Nos 4 professionnels qui sont là sur la barque sont dépassés. Alors Rembrandt a peint un tableau de ce récit. Alors peut-être, j'espère que le tableau sera assez grand, mais... Sinon, ben, prenez des longues vues. Voilà. Elle montre bien le combat des disciples contre la mer déchaînée, en tout cas. Il y en a un dont on a... Ben, vous ne le voyez pas. Enfin, si, il est sur le bord, vous voyez, avec le manteau rouge, il est comme ça. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais peut-être il est en train de vomir ses tripes, là, vous voyez. Voilà. Il y en a 2 qui essaient de remonter la voile. Il y en a un autre qui tente peut-être de la ramener. Il y en a un qui est à côté de la rame. Il y en a un autre au fond du bateau qu'on soupçonne en train de prier. Il y en a un qui essaie de garder sa casquette. Comme ça, on le verra tout à l'heure. Et puis d'autres sont en train de secouer Jésus. Et dommage que... Le tableau ne montre pas les cris des disciples, hein. Vous pouvez l'imaginer, hein, n'est-ce pas ? Il faut hisser la voile ! Non, non, il faut la remonter, il faut la descendre plutôt ! Ramez, ramez, moussaillon ! Écopez, écopez ! Écopez, écopez encore ! Tire la chevillette et la bobinette, Chéra. Non, ce n'est pas la même histoire ! Passez à bâbord, mais c'est où le bâbord ? Hein ? Il me semble que c'est la panique. C'est la panique. Il faut réveiller le maître. Parce que lui aussi va passer par-dessus bord. Maître, est-ce que tu te soucies pas de ce que nous périssons ? Il ne parle pas d'eux simplement, mais il parle de d'eux et de Jésus. Jésus est en train de dormir, le bateau qui, qui, qui flanche, il va aussi passer par-dessus bord. Et Jésus dormait. Mes amis, désolé de vous le dire de manière abrupte, mais cette tempête était une étape dans leur vie relationnelle avec le Seigneur. Ils allaient apprendre à le connaître mieux. Nous traversons tous des tempêtes, plus ou moins. Elles font partie de notre vie. Je n'ose les décrire parce que mes propres tempêtes me semblent parfois un vent léger quand je les compare aux tempêtes traversées par d'autres. Mais chacun vit ses tempêtes à sa manière. Et parfois, nous nous sentons secoués comme étant prêts à être immergés, comme étant prêts à être noyés. Comme j'aimerais que ma vie soit un long fleuve tranquille. Mais pourquoi le Seigneur leur a dit d'aller à l'autre bord ? Pourquoi était-ce nécessaire ? On a vu la raison tout à l'heure. Mais quand même, est-ce que Jésus savait-il ce qui allait se passer ? Savait-il ce que les disciples allaient endurer ? Est-ce que c'est juste de dire que les épreuves dans nos vies font partie d'un processus de croissance ? Je n'ose répondre. Parce que ma réponse aura les caractères de ma finitude. Je peux tomber dans un excès. Mais par contre, je ne peux que répondre ce que je lis dans les Épîtres. Que notre foi, qui est bien plus précieuse que l'or périssable, subit des épreuves, qu'elle est éprouvée, purifiée, agrandie par les circonstances diverses que nous pouvons traverser. Les disciples, après cette aventure, ont su avec certitude qui était vraiment celui avec qui ils voyageaient. Ils ont grandi au travers de cette expérience. Elle leur a été nécessaire dans la connaissance de leur Sauveur. L'épreuve a été plus forte qu'eux. Elle a dépassé le seuil de leurs compétences. Ils ont connu les limites de leur force, de leur débrouillardise. Il y en a qui sont très forts en système D. Mais lorsqu'ils ont dit « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Sauve-nous, nous périssons. » Ce sont deux vérités théologiques importantes. Un, que nous périssons. Deux, que nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est la meilleure des prières que nous pouvons faire. Seigneur, nous périssons. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Nous sommes dans le vrai lorsque nous disons « Nous avons besoin de toi, Seigneur. » Parfois, nous vivons notre vie chrétienne comme si nous n'avions plus besoin d'un sauveur. Nous sommes sauvés, ok, c'est dans la poche, je suis sauvé. Mais non, Seigneur, tu peux aller te reposer. Repose-toi, je dirige tout. Mais le Seigneur nous fait traverser quelquefois des tempêtes pour que nous disions, Seigneur, j'ai besoin de toi. Encore, j'ai besoin de toi. Combien nous avons besoin toujours du Seigneur, et même en Église. Je l'ai expérimenté lorsque j'étais pasteur. Tout faire, tout organiser, tout réfléchir pour ne plus rien avoir à faire, à organiser encore et à réfléchir encore. Ça y est, j'ai mon programme, j'ai ma vision, j'ai mon organisation, j'ai mon planning, j'ai mes finances, j'ai les bonnes gens, j'ai les au bon poste. Je n'ai plus besoin de toi, Seigneur, tout roule, l'Église va bien, génial. Voilà. Et puis, Seigneur, patatrac, allons de l'autre bord. Pourquoi tu as dit allons de l'autre bord ? Voilà. Oui, le Seigneur permet, le verbe permettre a ses limites, mais il me semble le plus adéquat. Le Seigneur permet ou autorise des tempêtes dans nos vies pour nous faire grandir dans notre connaissance de lui. Mais en tout cas, qu'il le veuille, qu'il le permette, il est là avec nous dans la tempête. Il est là avec nous dans la tempête. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parfois, nous concluons à tort que dans nos tempêtes, eh bien, le Seigneur nous a abandonnés, que nous sommes seuls, que personne, même pas Dieu, ne comprend ce que nous passons ou ce que nous ressentons. Dans le tableau de Rembrandt, on peut le repasser, il y a juste un petit coin de ciel bleu. En haut à gauche. Comme pour dire que toute l'attention du ciel est sur ce minuscule tableau au milieu du lac de Galilée, au sein de la tempête. Le Père veille sur le Fils et les disciples sont avec le Fils. Les disciples sont dans le Fils en parfaite sécurité. Et tant qu'ils sont dans le Fils, ils sont en parfaite sécurité. Les disciples ont appris, ils ont rencontré Dieu le Fils au sein de la tempête. Jésus s'est réveillé, les vents et les vagues n'avaient pu le réveiller, mais les cris et la prière de ses disciples l'ont fait. Alors l'Évangile nous le montre se lever. L'Évangile de Matthieu, Jésus se lève, il se met debout. Il ne parle pas à la tempête, il la menace. Il la réprimande, il la tense. Paix, silence, tais-toi. Et la tempête s'arrête rapidement. Les trois évangiles évoquent le grand calme qui se fait. Un grand calme. Grand calme. La mère a reconnu son maître. La mère a reconnu son créateur. La mère a reconnu celui pour qui elle a été créée. Les disciples avaient eu peur pour leur vie. Je pense que chacun d'entre nous, dans une telle situation, nous aurions eu les mêmes sentiments. Lorsque je suis allé au Costa Rica, la traversée de l'Atlantique ne s'est pas faite sans heurts. Pendant les 8 heures de vol, ça faisait comme ça, hein, comme ça, comme ça, comme ça. Étrangement, alors que le calme était revenu sur la mer, le texte nous dit qu'ils sont saisis de frayeur. Ils sont saisis de frayeur parce qu'ils sont face à un inconnu. La peur les a paralysés. La peur qui les a paralysés est différente de la frayeur qu'ils ont maintenant devant l'identité de cet homme qu'ils pensaient connaître. Il y a une peur qui empêche la foi et la confiance de se manifester. Et puis, il y a cette forme de crainte qu'ils ont maintenant, respectueuse, qui s'exprime devant la grandeur incroyable du Seigneur. Et cette sorte de frayeur ne paralyse pas la foi, elle l'encourage plutôt, elle la fortifie. Le Dieu de l'univers, celui qui a créé toutes choses et qui existe, et que toutes choses existent par sa seule parole, se tient à côté d'eux, dans la barque de leur vie. Cette frayeur de Dieu, non pas une frayeur qui écrase, mais une frayeur qui relève, une frayeur qui rassure, une frayeur qui amène la vie. Qui est cet homme qui s'éveille dans leur barque au milieu d'eux et qui commande au vent et à la mer? Et à qui les vents et la mer obéissent? Voilà. La question est rhétorique, hein, il n'y a pas la réponse après. Qui est cet homme? Elle va de soi. Il y a un psaume, peut-être que je vous invite à le lire, je crois qu'il est écrit assez gros, psaume 107. Tu peux passer, Timéo? Hop, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Encore une fois, merci. Voilà. Le psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, Dieu dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, les flots de la mer. Ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Waouh ! L'Éternel est dans la barque, avec eux, avec nous. Les flots montent vers les cieux et ils descendent vers les abîmes. Mais Dieu est là. Alors l'histoire de Jésus, je vais conclure. L'histoire de Jésus calmant la tempête sur la mer de Galilée est une histoire de disciples et de foi. Et cette foi est centrée sur Jésus. C'est ainsi que se termine l'histoire sur la question des disciples. Qui est cet homme ? La foi a pour synonyme confiance. Confiance. Avoir la foi, c'est avoir confiance. Ce n'est pas simplement adhérer à une doctrine, ce n'est pas simplement adhérer intellectuellement à un dogme. C'est aussi cela, bien entendu. Hein ? Sachant que la foi chrétienne est une foi rationnelle. Elle parle à notre intelligence. Mais une foi qui ne parlerait qu'à notre intelligence n'est pas la foi qui sauve. La foi chrétienne n'est pas un saut dans l'inconnu. Il est confiance. Confiance en celui que l'on peut connaître et qui s'est révélé à nous. Et comment s'est-il révélé à nous ce matin ? Par sa parole, en nous montrant comment il dirigeait les opérations, entre guillemets. Hein ? Dans le tableau de Rembrandt, vous pourrez regarder sur Internet si vous voulez. En fait, Rembrandt, il s'est dessiné lui-même, il s'est peint lui-même. Il y a 14 personnages sur ce bateau. J'ai cherché le 14e, il y en a un qui était caché en train de prier là, sous la barque. Là. Et on dit, les spécialistes disent que Rembrandt s'est dessiné lui-même, et c'est ce personnage qui est en train de regarder celui qui regarde le tableau. C'est le seul qui regarde comme ça. Et donc ce regard nous interroge un peu. Rembrandt nous interpelle, comme la parole de Dieu nous interpelle. Ce personnage nous invite à faire confiance et à ne pas craindre. Peut-être toi aussi tu es dans la galère. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère ? Hein ? Peut-être aussi tu es au milieu de la tempête. Toi aussi tu es peut-être en souffrance particulièrement. Tu as l'impression de te noyer. Et le Seigneur t'encourage. Il te regarde et il te voit. Il t'encourage à lui faire confiance. À lui faire confiance. En introduction, je vous avais parlé de l'action de Dieu sur la construction d'une vision du monde avec le prisme du réel. Dans quel monde sommes-nous ? Dans quel monde habitons-nous ? Nous habitons dans le monde que Dieu a créé, qui a été atteint par la vanité des hommes et qui soupire après sa rédemption. Christophe nous en avait parlé. Nous habitons dans le monde que Dieu n'a pas abandonné, sur lequel il a marché durant son incarnation, sur lequel aussi il a dormi. Nous pouvons être atteints par des tempêtes, des tsunamis, des tremblements de terre, voire même menacés de bombes atomiques lancées par des mauvais hommes. Et cela peut nous effrayer. Mais en aucun cas, nous devrions penser que Dieu était assez faible pour être pris au dépourvu. Le récit de la tempête apaisée fait naître en moi un grand calme. Quant à mon avenir ou quant au devenir du monde. Mon avenir et le devenir du monde est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Jésus règne. Amen. Soyez bénis et encouragés.